Transfert via GAB, le service d'envoi et de réception d'argent vers et à partir d'un guichet automatique du réseau des banques atlantiques, vous propose l'émission Appel sur l'actualité.
Banque Atlantique, grandir ensemble.
Appel sur l'actualité. 33 9 693 693 70.
Anne Campner.
Bonjour à tous, bienvenue. Vous avez la parole pendant une heure. Dans la seconde partie de l'émission, on va parler du procès du 28 septembre en Guinée, ce massacre qui avait fait 157 morts en 2009. Cela fait 2 mois que ce procès si attendu a commencé. Il y a eu 25 jours d'audience, des témoignages, des révélations et nous vous proposons de revenir sur les moments les plus marquants. En attendant de lancer le débat, vous connaissez l'émission, ce sont vos questions sur l'actualité. On commence par celle d'Elias. Bonjour. Elias, est-ce que vous êtes en ligne avec nous ? Elias,
Allô ?
Oui, bonjour, vous nous appelez de Nouakchott, on vous écoute.
Allô ?
Visiblement, la ligne ne marche pas très bien. Dernière tentative, Elias, et puis après, je me chargerai de poser votre question pour vous. Vous vouliez nous parler, je crois, d'une affaire très mystérieuse au Sénégal.
Oui.
Allez-y.
Bon, le corps d'un des deux agents du renseignement sénégalais porté disparu la semaine dernière a été finalement retrouvé. Il a été inhumé avant-hier. Donc, ma première question est de savoir que savons-nous des conditions de son décès ? Et la deuxième, où en sont les recherches concernant son collègue ?
Notre envoyée spéciale permanente au Sénégal est en ligne avec nous pour vous répondre, Elias. Bonjour Charlotte Idrac.
Oui, bonjour à tous.
Ces disparitions, on les avait signalées pour la première fois il y a un peu moins de 2 semaines. Et tout de suite, elles ont beaucoup intrigué. Qu'est-ce qu'on sait à ce propos, à ce stade ?
Alors justement, il y a eu des informations hier soir, hein, communiquées par le procureur de la République, le parquet. Selon lui, donc le concernant le décès du sergent Fulbert Sambou de la direction des renseignements militaires, le certificat de décès atteste que l'examen externe ne distingue pas de signes traumatiques ou de traces de violence. Le corps de Fulbert Sambou a été retrouvé le 23 novembre en mer. Par un pêcheur. Il a été identifié par la famille. Effectivement, il a donc été inhumé avant-hier. Et le parquet ajoute que l'état de décomposition du corps ne permet pas d'établir les causes exactes du décès, encore moins l'autopsie. Et justement, c'est ce que regrette notamment Seydi Gassama, directeur d'Amnesty International Sénégal. Pour lui, après 4 jours en mer, le corps aurait bel et bien pu être autopsié. Ça aurait pu permettre, selon lui, d'y voir plus clair sur les circonstances du décès, de faire la lumière. Le procureur a annoncé hier soir l'ouverture d'une information judiciaire pour rechercher les causes exactes. Quant aux proches de Fulbert Sambou, ils ne m'ont pas répondu au téléphone ces derniers jours.
Et est-ce qu'on en sait plus sur son collègue, le collègue de ce sergent Didier Badji ?
Alors, les recherches se poursuivent selon le parquet, mais pas de traces pour l'instant. Un de ses cousins qui vit en Allemagne, Moïse Badji, me disait à quel point c'était difficile, hein, psychologiquement pour la famille, d'être comme ça dans le flou. Il explique que Didier Badji est entré dans la gendarmerie depuis plus de 20 ans, donc il était en service à l'inspection générale d'État au moment de sa disparition. Hein. Il explique aussi que c'est un professionnel qui s'est toujours tenu à l'écart de la politique. Didier Badji et Fulbert Sambou sont tous les deux originaires des îles Bliskassa en Casamance, hein, c'est dans le sud du Sénégal, et c'est l'angoisse pour tous les ressortissants de cette zone.
Elias, vous avez une autre question à propos de cette affaire ?
Oui, la dernière question. La piste criminelle est-elle privilégiée dans cette affaire ?
Charlotte Idrac, c'est vers cela qu'on se dirige pour l'instant ?
Alors, ce qu'on sait, ce qui a été dit au départ par le parquet, donc au moment de leur disparition, c'est que leur téléphone, leurs chaussures, un filet de pêche et des restes d'appât de crevettes, je cite, avaient été retrouvés au niveau des falaises du Cap Manuel, donc c'est une zone à Dakar. On le disait, il n'y a pas eu d'autopsie sur le corps de Fulbert Sambou. Il y a eu hier soir cette communication du parquet, mais c'était la première depuis plus d'une semaine, donc ça a laissé le champ libre à différentes versions, à des hypothèses possibles. On ne peut que avoir ces hypothèses, hein, ces questions. Est-ce qu'il pourrait s'agir, par exemple, d'un accident, d'une noyade? Là, les proches des deux agents n'y croient pas. Ils soulignent, on l'a dit, que les deux hommes sont des insulaires, on l'a dit, donc nés près de la mer, qu'ils savaient très bien nager. Est-ce que ça pourrait être un règlement de compte? Est-ce que ça pourrait être lié à des affaires en cours? Un quotidien a par exemple évoqué un lien avec l'arrestation du journaliste Papalegnan, qui est notamment accusé d'avoir divulgué des documents militaires. Mais à ce stade, vraiment, je n'ai pas d'éléments pour faire le lien ni avec ce dossier, ni avec une autre affaire. Attention à la diffusion de fausses nouvelles, prévient Maître Patrick Cabou, l'un des avocats de la famille de Didier Badji. Il y a quand même beaucoup de questions qui se posent. Par exemple, certains se demandent comment la houle pourrait emporter deux hommes solides physiquement, mais laisser sur place les téléphones et les chaussures. D'autres soulignent que dans cette zone du Cap Manuel, on ne peut pas pêcher au filet, il y a trop de roches. En tout cas, il faut que la lumière soit faite. C'est ce qu'affirme le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Alassane Seck, pour qui c'est une affaire vraiment très grave, hein, que des militaires puissent disparaître comme ça sans laisser de traces.
Charlotte Hydrac en ligne de Dakar, merci d'avoir répondu aux questions d'Elias sur ces disparitions décidément très mystérieuses. Il est 8h17 à Dakar, une heure de plus à Libreville où nous attend Tanguy. Bonjour Tanguy.
Bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs des RFI.
Quelles sont vos questions?
Ali Bongo Ondimba a inauguré à Libreville un centre dédié à la protection des femmes victimes de violences. Quelles sont les femmes qui vont pouvoir être hébergées dans ce centre? De quel accompagnement vont-elles bénéficier?
Avec nous par téléphone, Yves-Laurent Goma, correspondant au Gabon de RFI. Bonjour.
Bonjour Anne.
Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que Tanguy n'est pas le seul à se poser ces questions. Ça a quand même un peu surpris cette inauguration.
Ah oui, en effet, il n'y a pas eu suffisamment de communication avant et après l'inauguration du centre le 23 novembre dernier par le président Ali Bongo. Selon un communiqué officiel, il s'agit d'un centre d'accueil pour les personnes victimes de violences basées sur le genre. Pour comprendre ce que cela veut dire, nous avons posé la question à Mme Honorine Zébitégué, ancienne ministre magistrat. Elle est défenseure infatigable des droits de la femme. Elle était présente le jour de l'inauguration. Honorine Zébitégué précise que ce sont en effet les femmes battues par leur mari qui peuvent y accéder. Selon elle, les enfants et les hommes aussi peuvent être accueillis dans ce centre, car, dit-elle, il s'agit d'un centre multidimensionnel qui reçoit toutes les personnes victimes de n'importe quelle forme de violence basée sur le genre. Ça peut être des violences physiques ou verbales. Il est donc possible que des homosexuels aussi y soient admis. Attention, ce n'est pas Mme Zébitégué qui le dit.
Et alors, de quel accompagnement vont pouvoir bénéficier les personnes qui se rendent dans ce centre, Yves Laurent ?
Oui, les personnes qui accéderont dans ce centre bénéficieront d'une assistance assez large. Il y a d'abord l'hébergement, il y a une unité de police judiciaire qui instruira les dossiers jusqu'au tribunal. Il y a aussi des médecins pour soigner les éventuelles blessures, mais aussi des psychologues et des assistantes sociales pour réparer le traumatisme moral provoqué par ces violences. Le cas le plus simple resteront 3 mois, les autres 6 mois au plus, le temps de préparer leur réinsertion sociale.
Merci Yves-Laurent. Tanguy, vous êtes toujours en ligne avec nous de Libreville?
Exactement.
Vous vouliez savoir autre chose?
Pourquoi le gouvernement gabonais paraît aussi actif dans la lutte contre les violences faites aux femmes? D'autres actions pour leur défense sont-elles à prévoir?
Yves-Laurent Goma, correspondant de RFI au Gabon, est-ce qu'il y a d'autres projets dans ce domaine de la part du gouvernement?
Oui, il faut dire que quand il est arrivé au pouvoir, Ali Bongo avait décrété une décennie de la femme. Certainement, c'est dans ce cadre qu'il a inscrit cette opération. Et le gouvernement est assez cohérent. Le centre a été mis en place dans le cadre d'une vaste politique nationale baptisée Gabon Égalité. Le gouvernement en parle assez souvent, mais les Gabonais ne saisissent pas réellement le contenu exact de Gabon Égalité. C'est un programme mis en place pour veiller sur le respect des droits de tous les citoyens. Tenez, selon nos informations, la Commission nationale des droits de l'homme démarre aujourd'hui même dans les camps militaires une campagne nationale de protection des droits des minorités, notamment les LGBTQI. Grosso modo, les homosexuels. On se rappelle qu'en juin 2020, le Gabon a dépénalisé l'homosexualité. Il semblerait que c'était une des conditions pour devenir membre du Commonwealth. Enfin, pour terminer, à propos des femmes, il faut dire que la prochaine élection présidentielle au Gabon, c'est dans quelques mois. Les femmes sont les plus nombreuses par rapport aux hommes et le centre peut aussi être une opération de charme en direction de l'électorat féminin.
Merci Florent Goma d'avoir répondu à ces questions de Tanguy. On vous souhaite une très bonne journée à tous les deux. Dans 20 minutes environ, dans la seconde partie de l'émission, nous parlerons du procès du massacre du 28 septembre 2009 en Guinée. Un procès très attendu, historique, 2 mois après le début des audiences. On a envie de savoir ce que vous retenez des révélations des accusés à la barre. Un numéro pour participer, le 339 693 693 70. Vous pouvez aussi nous écrire sur les réseaux sociaux. Et puis sur WhatsApp, je vous rappelle le numéro spécial 33 6 89 28 53 64. Mais pour l'heure, donc, la rédaction de RFI, des experts répondent à vos questions sur l'actualité. Alors, on avait une question sur le calendrier électoral en République démocratique du Congo de la part de Freddy de Kinshasa. Mais on a un peu de mal à le joindre, donc je vais poser ces questions pour lui. Ce calendrier, il a été rendu public il y a quelques jours et la commission électorale a choisi la date du 20 décembre 2023 pour la présidentielle. Le même jour, il y aura aussi les législatives et les communales. Avant cela, l'enrôlement des électeurs à partir de la fin du mois de décembre, là, avant Noël, en tout cas c'est ce qui est prévu. Et puis dans les provinces de l'Est à partir du mois de février avec beaucoup de questions et c'est ce que nous demandait Freddy. Comment peut se dérouler cet enrôlement alors que des affrontements perdurent dans la région? Est-ce qu'il faut craindre que les populations qui habitent sur place soient en fait complètement privées d'élections? On va en parler avec le chercheur Itiel Batoumike de l'Institut Ebouteli, l'Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Bonjour.
Bonjour.
J'espère que Freddy peut au moins nous entendre et qu'il pourra écouter vos réponses. L'enrôlement, c'est la première étape. Il doit se faire en 3 fois et donc à partir de la mi-février dans l'Est. Et on a du mal à voir comment il pourrait se tenir vu le niveau d'insécurité.
Et évidemment, si les affrontements perdurent jusqu'à la période du 16 février au 17 mars 2023, la période à laquelle la CENI prévoit enrôler les électeurs dans la troisième ère opérationnelle qui englobe les provinces de l'Est, directement touchées par le conflit, il y a risque effectivement que de nombreuses populations ne soient pas enrôlées. Je crois que c'est d'ailleurs pour cette raison-là que la CENI a énuméré parmi ses contraintes l'insécurité dans l'Est comme étant la première contrainte. Cette contrainte sécuritaire, elle était à la 5e position lorsque la CENI publiait la feuille de route le 3 février 2022. Et donc, vous comprenez que avec cette première place qu'elle occupe aujourd'hui, la question sécuritaire est une problématique sérieuse qui doit être prise en charge, sinon ces populations risquent de ne pas être enrôlées.
Mais c'était la question que j'allais vous poser, parce que pour l'instant, on ne voit vraiment pas du tout de sortie de crise. Le M23, qui a conquis beaucoup de territoires ces derniers mois, ne se refuse totalement d'appliquer la feuille de route qui a été décidée en sommet régional à Luanda. Est-ce qu'on peut imaginer que le processus se poursuive et que les habitants de ces régions soient privés d'élections?
Justement, si les affrontements se poursuivent, il y a 2 hypothèses qu'il faut prendre en compte. La première, c'est qu'on pourrait arriver à une situation où le M23 refuse que le gouvernement et la CENI en particulier accèdent au territoire sous son contrôle pour enrôler les populations. Et là, on aurait ces populations qui sont dans ces régions qui seraient exclues. Et finalement, la CENI ne se limiterait qu'à enrôler les populations qui sont dans les camps des déplacés. Et parce que les mesures d'application de la loi sur l'enrôlement et l'identification des électeurs prévoient que les personnes déplacées qui se trouvent dans des camps peuvent être enrôlées mais tout en mentionnant leur adresse habituelle des liens qu'ils ont pris. Mais dans la deuxième hypothèse où le M23 accepterait que les populations, que la CENI puisse accéder à son territoire librement, au territoire sous son contrôle librement pour enrôler les populations, il y a également là-bas risque qu'il y ait plusieurs irrégularités dans ces opérations, parce que là, ça ne sera pas la police nationale congolaise qui sécuriserait les centres d'inscription, et on risquerait d'avoir, par exemple, l'enrôlement des étrangers dans ces zones-là, parce que
mais avec
là,
très peu de très peu de moyens de contrôle et aucun regard extérieur sur ce qui se passe sur place. Merci beaucoup, Itiel Batoumike, d'avoir été en ligne avec nous de l'Institut Ebouteli, Institut congolais de recherche sur la politique, la gouvernance et la violence. Freddy, c'est dommage que vous n'ayez pas pu poser vos questions en direct, mais j'espère qu'au moins vous avez pu entendre les réponses à Kinshasa. À bientôt. Il nous reste quelques minutes avant le prochain journal, le temps d'accueillir Chinka qui nous appelle de Tillabéri au Niger. Bonjour.
Oui, bonjour Anne et bonjour à tous les auditeurs de la radio du monde.
On vous écoute.
Le parquet national financier a ouvert des informations judiciaires concernant le financement des campagnes d'Emmanuel Macron en 2017 et en 2022. Alors Anne, j'ai quelques questions à savoir. Quels sont les nouveaux éléments qui ont permis aux juges financiers d'ouvrir les enquêtes?
Pour vous répondre, Charlotte Orient-Tomaka du service politique de RFI nous a rejoint en studio. Bonjour.
Bonjour à vous.
Pourquoi les juges ouvrent-ils des informations judiciaires maintenant?
Alors, les juges ont ouvert une enquête judiciaire sur les campagnes victorieuses d'Emmanuel Macron et sur le cabinet de conseil McKinsey, qui sont tous les deux dans le viseur. Le procureur de la République, Jean-François Bonnaire, a indiqué que, je cite, suite à plusieurs signalements et plaintes d'élus et de particuliers, une information judiciaire a été ouverte le 20 octobre 2022, notamment des chefs de tenue non conformes de comptes de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne portant sur les conditions d'intervention de cabinet de conseil dans les campagnes électorales de 2017 et 2022. Le parquet national financier a publié aussi un communiqué dans lequel il explique que suite à plusieurs plaintes d'élus et d'associations, une information judiciaire a été ouverte le 21 octobre des chefs de favoritisme et recel de favoritisme. Alors ces enquêtes, elles vont étudier les liens entre le candidat Macron et le groupe McKinsey, notamment les conditions d'attribution de certains contrats publics aux montants colossaux à cette entreprise américaine, ainsi qu'à des soupçons de financement occulte de la campagne du chef de l'État. En bref, les trois juges d'instruction chargés de l'enquête cherchent à savoir si des contrats publics ont été signés en contrepartie d'un financement politique de la campagne du candidat. Alors il faut savoir qu'en raison de son statut de président de la République, Emmanuel Macron a une immunité totale et donc il ne pourra pas être entendu par les juges avant la fin de son mandat.
Et est-ce qu'il peut y avoir des conséquences politiques sur la majorité?
Alors oui, pour le moment, les proches du chef de l'État estiment que, je cite, le mal a déjà été fait. Ils tentent d'afficher leur sérénité. Mais ces enquêtes, elles mettent la majorité dans l'embarras, d'autant plus que les affaires se multiplient. Éric Dupond-Moretti est renvoyé devant la Cour de justice de la République, mis en examen d'Alexis Kohler, démission de Caroline Cayeux en raison d'un patrimoine sous-évalué et la justice qui ouvre une enquête. Ça commence à faire beaucoup pour un seul et même parti. Mais la majorité, sur ces sujets, s'en tient à un seul commentaire. Laissons la justice faire son travail. Ministres et députés se montrent prudents, ça les arrange aussi évidemment. Mais les prochaines échéances électorales, pour certains membres de l'exécutif, à se la jouer solo. Et on sent des tensions quand même dans la majorité. D'ailleurs, ce mardi en Conseil des ministres, le chef de l'État a recadré certains membres de son gouvernement. Alors c'est le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui était particulièrement visé. Puisque lors d'une interview ce dimanche, Bruno Le Maire a reconnu, je cite, des abus et une dérive passée dans le recours des ministères au cabinet de conseil privé. Le lendemain, le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, a tenté d'éteindre l'incendie. Il a réfuté toute dérive ou abus. Alors on sait que Bruno Le Maire a des ambitions présidentielles pour 2027. Il se la joue un peu solo sur ce genre de sujet. Et selon un de ses proches, il avait très envie de dire que son ministère avait baissé le recours à McKinsey. Donc en apparence, une majorité unie, mais les langues se délient peu à peu.
Merci beaucoup Charlotte Orient-Tomaka d'être venue répondre aux questions de Chinka. Et merci Chinka de nous avoir appelé. On vous souhaite une très bonne journée à Tillabéri, au Niger. Vous restez avec nous. Dans un instant, c'est le journal, toute l'actualité africaine. Et nous, on se retrouve juste après pour le débat. On attend vos commentaires sur le procès du 28 septembre 2009 en Guinée. Après 25 jours d'audience maintenant à Conakry. On a reçu beaucoup, beaucoup de commentaires pour parler de Toumba, l'ancien aide de camp de Moussa Dadis Camara, qui a beaucoup fait parler de lui lors de ses longues journées d'audience. On y revient donc dans 10 minutes. À tout de suite.